Je vais donc céder la parole pour une petite demi-heure à Laurent Lannes, qui va évoquer la pensée sociale du général de Gaulle et les conditions de son évolution dans la guerre et le GPRF.
Merci, Monsieur le Président. Alors, sur l'intitulé de la communication, les conditions de l'évolution, avant de parler de l'évolution, il faudrait d'abord rappeler que c'est une genèse. Parce qu'en effet, le général de Gaulle, la guerre, c'est le moment où se cristallisent les lignes d'action du général de Gaulle. On le sait parce qu'il n'y a pas de réflexion de fond de sa part avant la guerre. Il y a notamment un échange de courriers au moment où le général de Gaulle a pris le commandement du 507e régiment de combat à Metz avec Jean Haubertin. Jean Haubertin, c'est un juriste qui, lui, s'intéresse beaucoup aux questions sociales. Ils sont connus quelques années au préalable. Jean Haubertin avait bien apprécié le livre de Gaulle sur « Vers l'armée de métier » en 1934 et avait fait un compte-rendu dans la revue de l'École des sciences politiques. Et Jean Haubertin lui pose des questions sur, justement, sa philosophie sociale, ce qu'il pense de la question sociale. Et de Gaulle lui répond qu'il est dans les chars jusqu'au cou, qu'il n'a pas de compétences et que... Il ne sait pas, lui, qui pourrait inventer la doctrine sociale qui conviendrait pour les temps qui viennent. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas de réflexion de sa part, si ce n'est un diagnostic et bientôt une prédiction. Le diagnostic, il est établi dans « Vers l'armée de métier », où il parle du malaise des âmes, qui résulte, selon lui, d'une civilisation matérialiste dominée par l'argent. On sent là aussi une influence probablement de Charles Péguy. Et la prédiction viendra quelque temps plus tard dans le mémorandum que de Gaulle va adresser à 80 civils et militaires. C'est son mémorandum sur l'avènement de la force mécanique en janvier 1940. Et là, dans lequel il explique que le conflit est issu d'une crise politique, sociale et morale qui entraînera un bouleversement complet de la situation des peuples. Donc on voit bien qu'il est déjà dans une réflexion, et il a lui-même une sensibilité politique, si on peut dire, même s'il n'a pas d'engagement. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur, en expliquant qu'il était proche des mouvements des démocrates chrétiens, notamment Francis Gay, qui avait créé l'Aube en 1932, mais aussi évidemment Temps présent. Et il a écrit dans « La France et son armée » que... Précisément, il regrettait que le mouvement social se soit détourné de Proudhon et Fourier pour s'enrôler sous la bannière de Marx. Donc on voit qu'il est à la lisière de ces mouvements, sans engagement, sans esprit de système. Et probablement que c'est un moment important également, puisque de toute façon, ce courant démocrate chrétien, dans lequel on voit des gens comme Louis Ternoir, qui est un syndicaliste de la CFTC, qui sera lui-même secrétaire de rédaction, rédacteur en chef de l'Aube et de Temps présent, sera engagé évidemment pendant la résistance, puisqu'il deviendra le secrétaire du Conseil national de résistance. Il y a des gens comme Georges Bidault, qui sera l'une des plumes de Temps présent. Donc il y a là un courant qui va nourrir, on le verra tout à l'heure, la résistance. Personnage important, Stanislas Fumet. Je vous recommande d'ailleurs son livre « L'histoire de Dieu dans ma vie » où il donne beaucoup d'indications précisément sur la manière dont lui va basculer vers la résistance et notamment derrière le général de Gaulle. Il dira d'ailleurs après l'appel du 18 juin « Moi, général de Gaulle, c'était enfin quelqu'un ». Et il expliquera que le destin de de Gaulle, c'était de ramener l'honneur de la France. Alors l'appel du 18 juin, c'est... À mon sens, deux choses qui sont très importantes. C'est d'abord une opposition totale et frontale à Vichy. On retrouvera ça un peu plus tard quand de Gaulle dira que les soi-disant réformes de Vichy sont comme des champignons qui ont poussé sur de la pourriture. Mais aussi la prise de conscience que les élites ont déserté l'intérêt national et qu'il va s'appuyer progressivement sur une nouvelle élite, ouinte par la résistance. Et quelle est cette nouvelle élite? C'est la France libre, et c'est évidemment la résistance intérieure. Alors, le point de départ de cette évolution, pour le compte de la pensée sociale, en tous les cas la matrice, même si tout ça est encore en gésine, ce sont les deux discours que vous connaissez certainement, le discours de l'Albert Hall et celui d'Oxford, qui interviennent après la promulgation de la Charte du travail. Le résumé des deux, on peut dire que... Au fond, il fait une sorte de description de la civilisation industrielle dans laquelle il explique que précisément la mécanisation à écraser l'individu, et que d'autre part, dans celui d'Oxford, il explique qu'il y a une sorte de conformisme collectif, on pense tous la même chose, on lit tous les mêmes journaux. C'était déjà un peu prémonitoire par rapport à la période qu'on connaît aujourd'hui. Et par rapport à cela, il faut engager une œuvre de rénovation, restaurer l'État dans une fonction de cohésion et de justice sociale, et en même temps, d'ailleurs, à la fin 41, les premières institutions de réflexion de l'après-guerre sont mises en place. Il y a peu de choses sur... Il a un diagnostic, il a un constat, mais Raymond Houffroy, qui est un diplomate, qui sera secrétaire général adjoint du CFLN, explique que De Gaulle, au fond, a déjà des idées sur au moins deux, trois éléments, sur le malaise des âmes, c'est évident, sur un capitalisme qui est non intégrateur et qui produit de l'aliénation et du conflit, et en même temps... précisément, les notions de participation, ce qui va être un petit peu la voie originale de ce qu'on va appeler le gaullisme, n'est pas encore apparente. Il faut reconnaître aussi que De Gaulle, à cette période, c'est une voie isolée et contestée. On sait à cette époque que les mouvements de résistance ne reconnaissent pas la domination, entre guillemets, politique de Londres. Et qu'en même temps, il a déjà un cercle, le cercle Jean Jaurès, qui s'est créé dès 1940 avec Pierre Commer et Georges Gombeau, qui vont lancer un journal qui s'appelle La France et qui est une sorte de centre d'opposition, en quelque sorte, à De Gaulle. Je crois que le moment important et le moment du basculement absolument décisif, c'est la rencontre, le premier contact avec la résistance intérieure entre De Gaulle et Pinault. Pinault, c'est un syndicaliste. C'est un militant qui a été l'un des signataires du manifeste des 12, ce moment où les syndicalistes vont essayer de créer... la CGT et la CFTC, une organisation pour précisément lutter contre Vichy après le décret de dissolution des syndicats. Donc c'est vraiment un moment décisif. Et en même temps, Pinault a créé le mouvement Libération Nord, qui est un des principaux mouvements de résistance. Et il est de la même manière mandaté par plusieurs mouvements pour rencontrer De Gaulle. Et de cette rencontre, et vous le savez certainement, va découler la déclaration au mouvement de résistance qui va être publiée dans la presse clandestine et là qui porte, quand on lit le texte, c'est absolument certain, cette déclaration porte en germe la nécessité des réformes qu'il faudra conduire à la libération. Notamment, De Gaulle parle de la dignité au travail. Mais en même temps, ce qui est important, ce sont les conséquences de cette déclaration. D'abord... après cette déclaration, De Gaulle va être reconnu comme le chef de la résistance. C'est une lettre notamment de Léon Blum qui expliquera que c'est l'homme nécessaire, celui autour duquel se constituera le gouvernement intérimaire au moment de la libération. C'est le moment aussi où vont s'accélérer les ralliements à De Gaulle. Pour les socialistes, Brossolette, André Philippe, Félix Gouin, Pierre Mendès-France pour les radicaux, et un petit peu plus tard, le communiste Grenier et Écueil. Donc c'est un moment là de cristallisation, en quelque sorte. Mais il faut aussi insister sur le fait qu'au cours de l'été 1942, se crée le Comité national des experts, avec des gens aussi différents que Menton, Bastide, qui va donner une force de réflexion sur ce qu'il faudra faire au moment de la libération. Et vous le voyez par les différents noms que je cite, par les différentes familles de pensées qui vont être réunies autour de Gaulle, je crois que la pensée sociale de Gaulle va se nourrir de ce syncrétisme. Alors on le retrouve, si vous voulez, par rapport... je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer à quel point les éléments sont déjà en place. C'est-à-dire que... par rapport aux socialistes, et notamment Louis Vallon, qui a également et qui aura une importance capitale dans la réflexion des sujets, des questions sociales, notamment au moment du RPF, la création du RPF, du socialiste, il retient l'idée d'association. Les socialistes qui vont rejoindre De Gaulle, ceux qu'on va appeler les gaullistes de gauche ou les gaullistes de progrès, ont considéré que le parti avait trahi les idéaux de cette lignée de socialistes français, de Pierre Leroux, Proudhon, Fourier, que de Gaulle, évidemment, connaît, notamment par sa grand-mère. Et précisément, cette idée d'association, elle est déjà en germe. Et l'idée vient, me semble-t-il, beaucoup de ce courant socialiste qui ne s'est pas enrôlé pour le compte sous la bannière de Marx. Mais il y a aussi des éléments qu'il retient de la doctrine sociale de l'Église, notamment la notion d'ordre social juste. Mais ce qu'on retrouve aussi, et qui est très important dans l'encyclique du pape, Quadragesimo Anno, la notion de coopération entre le capital et le travail. Et il faut reconnaître aussi que de Gaulle est influencé par ce qu'on va appeler le nouveau libéralisme anglais, qui a été théorisé par un philosophe d'Oxford qui s'appelle Thomas Hill Green, qui considère qu'on ne peut pas, que le marché doit être régulé et qui justifie l'intervention de l'État. C'est important parce que ça va influencer à la fois Keynes, mais aussi la classe dirigeante britannique, et notamment William Beveridge, qui va faire connaître un rapport parlementaire sur les services sociaux en novembre 1942, dont de Gaulle a connaissance. Et il dira d'ailleurs à propos de ce rapport qu'il est saisissant. Donc vous voyez qu'il y a une multiplicité d'influences, notamment liées au fait que la résistance elle-même est diverse et que ces familles de pensée, précisément, vont l'influencer. Alors le moment lumineux est probablement où tout s'accélère. C'est de Gaulle qui arrive à Alger, la création du CFLN en juin 1943, et l'ordonnance qui va créer l'ACP, l'Assemblée consultative provisoire, où là, on sent vraiment un bouillonnement d'idées, notamment André Philippe au CFLN est chargé des études pour l'après. Mais il y a aussi quelqu'un qui va devenir un personnage très important, le communiste Ambroise Choizat, qui, lui, va être dans la commission consultative du CFLN et notamment président de la commission travail. Mais vous avez aussi des organismes de réflexion, évidemment, le Conseil national de résistance, le CNE dont j'ai déjà parlé. Donc vous voyez que là, il y a une espèce, de bouillonnement d'idées, puisque pratiquement tous sont d'accord sur la nécessité de créer un nouvel ordre social. Il y a deux moments importants, et je crois que c'est là qu'on voit bien la convergence entre ces différents mouvements. C'est le programme de la résistance, les jours heureux, mars 1944, où on retient ces idées déjà de participation, notamment le soutien aux coopératives, la nationalisation, le plan de sécurité sociale et la voie gaulliste, qui est là du coup très explicite, notamment lors de son discours inaugural à l'Assemblée consultative provisoire en novembre 1943, où il explique qu'il faudra cesser avec un régime économique où la direction des entreprises excluait la participation, et surtout le discours de Gaulle aux délégués syndicaux le 1er mai 1944, où il explique qu'il faudra associer les travailleurs au sein des entreprises. Le moment important, c'est 3 juin 1944, au moment où le CFLN se transforme en gouvernement provisoire de la République française. Il y a là, je crois, une sorte de projet politique d'affichage où la participation est un peu la clé de voûte de cet ordre social nouveau. Il y a un rapprochement des familles de pensée, des familles politiques, qui vont esquisser une sorte d'aggiornamento social, et la participation devient ce projet politique. Alors on le voit clairement dans ce que vont être les premières mesures de 1945. On a parlé tout à l'heure des deux ordonnances sur la sécurité sociale, j'y reviendrai, mais je veux d'abord dire où on sent vraiment cette espèce de touche participative, c'est la création, par ordonnance, des comités d'entreprise. Dans le préambule de cette ordonnance, il est bien indiqué la nécessité d'associer les travailleurs à la gestion de l'entreprise. Et de Gaulle dira lui-même, d'ailleurs, dans ses mémoires, qu'il considérait que la création des comités d'entreprise, c'était un premier pas vers l'association du capital et du travail, et qu'il croyait, lui, à une structure humaine de l'économie. Les ordonnances de la sécurité sociale, moment aussi là très important, Pierre Larocque, qui va être en charge de cette réforme sous la direction de Parodi, qui lui devient ministre du Travail. Larocque dira que de toute façon, il a accepté de prendre en charge la direction de cette direction à partir du moment où précisément on allait développer un véritable plan de sécurité sociale. Il expliquera également que la sécurité sociale faisait partie d'un ensemble plus vaste qui, lui, était aussi dans l'idée de faire mieux participer les travailleurs au sein des entreprises. Alors, on peut considérer que ce plan de sécurité sociale, pour une partie, trouve son origine, sa source, son inspiration par rapport au plan Beveridge. Mais il y a quelque chose qui est tout à fait différent du plan Beveridge, c'est qu'en France, ce plan est conçu par l'intervention directe des représentants du monde du travail. Il y a un personnage qui va prendre une importance considérable dans le dispositif et en tous les cas dans le lancement de la sécurité sociale. C'est le nouveau ministre du Travail qui sera nommé en novembre 1945. C'est le communiste Ambroise Croizat qui, lui, va asseoir le dispositif de la sécurité sociale sur quatre piliers, l'universalité, l'unicité, la solidarité et la démocratie, c'est-à-dire que ces caisses de sécurité sociale vont être gérées par les travailleurs eux-mêmes. En 6 mois, 138 caisses de sécurité sociale vont être créées. Donc vous voyez que l'importance du concept de participation autour duquel il y a là un véritable consensus. On peut ajouter également, pour montrer à quel point cette idée de participation était partagée, c'est dans le préambule de la Constitution de 1946, l'indication selon laquelle les travailleurs, les salariés vont pouvoir participer directement à la gestion de leurs affaires par le biais de leurs représentants. J'ajouterais même une chose, peut-être qu'il y a là une voie d'originalité gaulliste, c'est la création du commissariat au plan. D'une certaine manière, le commissariat au plan, créé en janvier 1946, est lui aussi un modèle de participation. Pourquoi ? Le Parlement, à cette époque, je rappelle que les communistes représentent à peu près 25% de l'électorat, est un lieu de clivage où pratiquement les réformes sont très difficilement possibles. Et en créant le commissariat au plan, le général de Gaulle va faire travailler les hauts fonctionnaires, des patrons et des syndicats, de manière à ce que chacun sorte un peu de son jeu de rôle. Et là, de véritables réformes vont être conduites. Et en tous les cas, c'est dans son idée, probablement, le référendum de 69, quand il propose de supprimer le Sénat, c'est sans doute pour institutionnaliser ce qu'il avait remarqué au sein du commissariat au plan. Mais j'abandonne tout ça, puisque ce n'est pas véritablement le sujet, pour vous dire qu'il y a véritablement consensus, mais que ce consensus se rompt au moment du départ du général de Gaulle en 1946, et que, pour bien indiquer, si vous voulez, que cette idée de la participation pour de Gaulle n'est pas simplement une question d'opportunité au moment de la reconstruction, et après tout, on pouvait imaginer qu'au moment de la reconstruction, associer, faire participer les travailleurs, c'était un élément, un atout par rapport à l'immense chantier qu'était la reconstruction. Pas du tout, puisqu'au moment de la création du RPF, l'élément phare du RPF, c'est l'association Capital Travail. Je pense que c'est lié en partie au fait que ça devient aussi une sorte d'arme politique pour combattre les organisations de gauche dans le cadre des entreprises. En tous les cas, c'est une conviction profonde de Gaulle. Lui-même, d'ailleurs, parlera probablement que le salariat n'était pas la base de l'économie française. Bon, on connaît la suite. Les organisations sociales de gauche vont se détourner de la question de la participation ouvrière. Et on a là l'indication absolument très claire de la manière dont la question de la participation de l'association Capital Travail était considérée par les organisations de gauche. Au moment de l'ordonnance de 67 sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion, où François Mitterrand dira que ce sont des gadgets et des sucettes, et où Henri Krasucki pour la CGT parlera de Dupri et de Vol. Je voulais simplement dire, que, prolongeant ce propos, que la participation pour de Gaulle est véritablement un enjeu. Ce n'est pas quelque chose qui est accessoire. D'ailleurs, lui-même dira, ou c'est en tous les cas Malraux qui le rapportera, ces propos de Gaulle qui lui aurait dit que, voyez, Malraux, la participation, en fait, je suis tombé sur la participation au moment du référendum de 69 parce que ça symbolisait, au fond, tout ce que j'avais porté, ce que je voulais moi-même mettre en œuvre. Et dans ses mémoires, il écrira après 68, de toute façon, qu'il avait contre lui toutes les féodalités, c'est le mot qu'il emploie, qu'elle soit libérale, marxiste ou immobiliste, pour s'opposer à la participation. Donc d'un mot, voilà, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est pendant la guerre, l'intuition et en même temps l'idée que pour De Gaulle, il y a une unité possible, un rassemblement possible autour des idées d'association et de participation, et que ça a été l'idée que lui, jusqu'en 69, va soutenir. Donc on peut considérer que par rapport à sa pensée, la question sociale est évidemment éminemment importante.